Cantique des Cantiques, nous sommes au chapitre 8. Et je vous rappelle que ce chapitre 8 n'est pas la conclusion d'une histoire amoureuse telle que certains auraient pu l'imaginer à la lecture du Cantique des Cantiques. Mais nous avons plutôt constaté que dans ce chapitre 8, c'est une série d'enseignements. Une série d'enseignements, justement, de ce Cantique des Cantiques qui est au-delà d'une relation dite amoureuse ou plutôt très, très, très sentimentale. C'est une parabole amoureuse. Voilà peut-être la définition la plus exacte que nous pourrons donner au Cantique des Cantiques. C'est une parabole amoureuse et ce chapitre 8, donc, n'est pas seulement une conclusion amoureuse, mais c'est plutôt une série d'enseignements de ce que l'on peut tirer du Cantique des Cantiques. Alors, le chapitre 8 est très particulier parce qu'une première lecture est très déconcertante. Il y a un rythme particulier, toutes les deux ou trois versets, on a l'impression qu'on change de contexte, qu'on ne parle pas de la même chose, tout simplement parce qu'effectivement, dans ce jeu scénique qu'est le Cantique des Cantiques, et bien dans ce chapitre 8, chaque personnage qui a eu un rôle pendant les sept chapitres, et bien ils reviennent dans ce chapitre 8 et chacun apporte un peu un élément, un enseignement par rapport à ce qu'il a vécu lui au travers de cette histoire du Cantique des Cantiques. Alors c'est vrai que ça a un rythme un peu particulier et qu'on a l'impression de changer comme ça de contexte tous les deux ou trois versets. On va pas relire ce soir le chapitre 8, mais je vous rappelle juste que donc la semaine dernière on avait vu donc le verset 5 avec cette prise de parole du peuple qui se disait: mais qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Donc ça fait une succession ça d'interrogations qu'il s'était posé, et puis la réponse de la Sulamite qui avait continué en disant: je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Alors là on avait vu ça, et puis ce soir on va voir le verset 6 et 7. Alors, il est un peu particulier le verset 6 et 7. Il faut bien se rappeler que le texte original est écrit en hébreu. Et dans le texte hébreu, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas non plus d'annotation qui dit qui prend la parole. Il n'y a pas non plus de numéro de verset. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset 6, verset 7. Tout ça, c'est tout un ensemble. Et de temps en temps, on est un peu trompé par les découpages qui nous sont donnés dans nos versions, qui sont là normalement pour nous faciliter la lecture et la compréhension. Mais en fait, le verset 6, qui est un peu en deux parties, la première partie du verset 6, c'est la suite du verset 5, et la deuxième partie du verset 6, c'est l'introduction au verset 7. Ok ? Donc on va relire le verset 5, 6 et 7, et vous allez comprendre qu'effectivement le verset 6, à la fois le début du verset 6, c'est la suite du verset 5, et la deuxième partie du verset 6, c'est l'introduction au verset 7. Alors on va relire ça, et puis après on va rentrer dans l'explication du texte et des leçons spirituelles que l'on peut tirer. Alors on va lire la deuxième partie du verset 5 où la Sulamite prend la parole et elle dit: je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. C'est là, elle parle à son bien-aimé, qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Mais moi, donc c'est la Sulamite qui parle à son bien-aimé, mais moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et là, ce sont les femmes du harem qui prennent la parole et qui disent: l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont comme des ardeurs de feu, comme une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alors, déjà dans une lecture comme ça où on peut découper, on comprend bien que donc le début du verset, là, celui qu'on va commencer à méditer, est bien lié au verset précédent. Que dit la Sulamite ? Elle dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur et sur ton bras. » Qu'est-ce qu'un sceau ? Eh bien, c'est une sorte de tampon. Voilà, l'image la plus facile à retenir pour nous, c'est une sorte de tampon, un cachet. C'était une sorte d'empreinte qui servait de signature et c'était aussi une marque de propriété. Voilà, quand quelqu'un mettait un sceau sur un document, il validait ce document, il le mettait aussi sur des choses. Par exemple, on avait peut-être vu par exemple des films américains où vous voyez les vaches, elles sont marquées au fer rouge. Voilà, c'était une image du sceau. On marquait les bêtes comme ça au fer rouge, comme ça elles savaient à qui elles appartenaient. Et donc le sceau, c'est à la fois une signature et c'est un acte de propriété. C'était quelque chose de très important. Ça pouvait se mettre sur une bague. C'est pour ça que vous voyez souvent les rois avec des anneaux, parce que dessus il y avait donc ce coup de tampon qu'ils pouvaient adosser à des documents. Ça pouvait être porté autour du cou, voilà, comme une sorte de collier, et puis dessus il y avait le sceau, comment ça se savait. Et certains avaient sous forme de bracelet, pareil. Quel est l'intérêt de tout ça ? Ben, c'était tout simplement de l'avoir sur soi, à proximité, et de pouvoir user de cette autorité dans les documents officiels ou dans des transactions. Et donc, qu'est-ce que demande la Sulamite ? La Sulamite demande à être comme un sceau, tout proche du corps de son bien-aimé. Tout simplement, la Sulamite demande à être proche de son bien-aimé. Voilà pourquoi elle utilise cette image. Mets-moi comme un sceau. Permet que je sois tout proche de toi, quelque chose dont on ne se sépare pas. Aujourd'hui, on pourrait dire être proche comme ton téléphone portable. Aujourd'hui, l'homme est quasiment collé à son téléphone portable. Il le regarde toutes les deux secondes. Mais si elle l'avait écrit au 21e siècle, elle dit « Oh, fais de moi ton iPhone !» Voilà, ça s'était marqué pour ce rapprochement. Voilà, très 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 proche. Et puis la seconde partie du verset 6, on a vu qu'il est lié au verset 7. Et il est fort probable que ce soit les femmes du harem qui prennent la parole. Et qu'elles rendent témoignage. Vous allez comprendre pourquoi. Alors qu'est-ce qu'elles disent ? Alors peut-être que dans vos versions, vous avez le petit mot « car ». Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Bon, il y a vraiment plusieurs nuances par rapport au texte hébreu. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, le petit mot « car » n'existe pas dans le texte hébreu. Donc c'est bien pour ça que ce verset-là n'est pas du tout lié au verset d'avant, mais qu'il introduit le verset d'après. Il n'y a pas le car. Et puis même le mot éternel, par exemple, qui est dans notre Bible, eh bien, il y a beaucoup de traductions qui ne l'ont pas mis. Parce qu'il est fort possible que dans le texte original, il n'y ait pas de référence à l'éternel. C'est un choix de l'auteur de traduire, parce que c'est vraiment... Le Cantique des Cantiques, c'est un comme beaucoup de livres poétiques, sont des livres qui sont difficiles à retranscrire dans la pensée. En fait, voilà, je vais vous... Au lieu de vous alourdir de détails techniques, je vais tout de suite vous donner le sens à retenir de ce verset-là. Voilà ce qu'il y a à retenir. L'amour est aussi fort que la mort et la passion est aussi indomptable que la mort. Comme la mort vous saisit et vous tient, aussi la passion vous saisit et vous tient. Elle est une flamme ardente. Elle frappe comme la foudre. Vous voyez ? On comprend mieux le texte ? En fait, il dit que l'amour est aussi dur que la mort. Quand la mort frappe, elle vous tient et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc c'est à cela qu'elle compare. Et elle dit, et ça frappe, ça descend comme la foudre. C'est comme un feu. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent du feu de l'éternel. C'est un feu qui, tac, il est parlé d'ardeur, de saisissement, de fièvre. C'est une flamme ardente comme la foudre frappe. Et alors, et les filles du harem, en fait, pourquoi elles prennent la parole pour dire quelque chose comme ça? Parce que elles sont en train de décrire la force de l'amour qu'elles ont pu observer chez la Sulamite. Et on avait déjà vu que leur langage avait beaucoup changé aux Sulamites. Elles continuent d'ailleurs. Elles parlent de ce feu. Normalement, un feu, ça s'éteint avec quoi? Avec de l'eau. Et c'est pour ça qu'elles continuent. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Donc on comprend que c'est vraiment une suite. Elles disent, mais l'amour, c'est comme un feu puissant, et même les fleuves ne pourraient pas l'éteindre. Et quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Effectivement, donc, les filles du harem, elles sont en train d'exprimer ce qu'elles ont vu de leurs propres yeux. Elles ont vu cette Sulamite qui était vraiment attachée à cet amour pour son bien-aimé. Les grandes eaux ne peuvent l'éteindre. Effectivement, les femmes ont été témoins de l'attachement de la Sulamite à son bien-aimé. Et quelles que soient les situations, elles voyaient que rien ne pouvait éteindre l'amour qu'il y avait dans le cœur de la Sulamite. Et quand elles parlent, quand un homme, bah évidemment, elles parlent de qui ? De Salomon, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison. Mais rappelez-vous que c'était complètement ce qu'il faisait. Rappelez-vous, au chapitre 1er, dès le chapitre 1er, au verset 11, il lui avait promis, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. J'espère que vos maris vous ont fait de beaux cadeaux comme ça. Mais quand c'est le roi Salomon qui promet à elle, pas aux autres, à elle, on va te faire des colliers en or, en argent. Et c'était pas tout. Rappelez-vous qu'au chapitre 3, la Sulamite était dans le cortège royal, en place quasiment de reine. C'était une situation de fiançailles. La Sulamite allait devenir la reine, vous rendez compte? Mieux que la première dame de France. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il cherchait à la posséder, à l'avoir pour lui. Et la Sulamite a toujours tenu toutes ses avances en recul. Il était prêt à la faire reine. Mais toutes ses tentatives de séduction, par l'appât du gain, c'était que ça. Il n'avait que ça à lui offrir. Des colliers, des belles voitures, un palais royal, une situation extraordinaire. Tu te rends compte, si tu te mets avec moi, tout ce que tu auras, tu te rends compte. Mais il n'a que ça à lui offrir. Et bien tout ça, ça s'est retourné contre lui. Parce que la Sulamite a refusé tout ça. Et les filles du harem, devant la pureté, devant la force de la pureté de la Sulamite, et ben elles considèrent les sentiments du roi complètement méprisables. Mais c'est vraiment intéressant quand même. Et je vais vous rappeler quand même la chronologie, mais rappelez-vous combien le regard des femmes du harem a complètement changé. Je vous rappelle que c'était elles qui avait commencé le cantique des cantiques par ces mots-là, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. C'était elle qui avait commencé. Et dans le chapitre 1er, on voit comment elle vantait l'érotisme et la gloire du roi Salomon. Dans le même chapitre, au verset 8, elle méprisait la naïveté de la Sulamite. Mais t'as rien compris à l'histoire, toi, ma pauvre fille. Au chapitre 5, elle commence quand même à être surprise par l'attachement de la Sulamite et elle commençait à s'interroger, mais c'est qui ton bien-aimé pour que tu t'attaches autant à lui? Et au chapitre 6, elles étaient tellement convaincues de l'amour du bien-aimé qu'elles réalisent que l'amour du bien-aimé était bien meilleur que l'amour du roi, pour finir au chapitre 8 pour dire que véritablement, cet amour-là, il est fort, il est beau, il est noble, et l'amour là, de notre roi, il est méprisable. C'est incroyable, hein, ce changement de façon de parler, d'observation de la situation. Oui, c'est vrai, disons-le haut et fort, le vrai amour ne s'achète pas. Amen. Le vrai amour ne s'achète pas. Et c'est vrai que le berger bien-aimé, lui, il n'avait pas grand-chose à lui offrir à côté, hein. Il n'avait pas grand-chose. Il n'avait rien de prétentieux à lui offrir. Mais en tout cas, l'amour que témoigne la Sulamite a montré par là que le véritable amour a bien plus de richesses que toutes les richesses du monde. Amen. Alors, quelques leçons à retenir de ces deux versets. J'ai retenu cette phrase, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Et j'ai envie de dire, « Nous aussi, soyons le sceau de Dieu. » Que là où nous sommes, nous puissions marquer les gens de l'empreinte de Dieu. Que nous soyons véritablement le témoignage, le reflet, le parfum, l'identité, non seulement le Seigneur nous a marqués de son sceau par le Saint-Esprit, mais nous sommes aussi appelés à marquer là où nous sommes le reflet de Dieu. En action, et c'est le symbole, mets-moi comme un sceau sur ton bras. Nous sommes appelés à manifester l'empreinte de Dieu par nos actions, par nos œuvres, mais également par nos sentiments. Mets-moi un sceau sur ton cœur, que dans nos sentiments, dans notre manière de parler, par notre caractère, nous reflétions également la marque du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est par là que nous avons été marqués, qu'il y a l'empreinte de Dieu sur nous. C'est Paul qui utilise l'image du sceau justement pour parler du Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens chapitre 1 verset 13 où il nous dit que c'est en Jésus-Christ que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, c'est quoi ? Le Saint-Esprit, c'est la marque de l'approbation de Dieu sur notre vie. Le Saint-Esprit, c'est la marque de propriété de Dieu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a la garantie de la vie éternelle. Celui qui a le Saint-Esprit a la conviction qu'il appartient à Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit et qui entretient cette relation à Dieu par le Saint-Esprit n'a aucune crainte. Il appartient au Seigneur Jésus. Amen. Et c'est important pour nous, non seulement de vivre de cette marque du Saint-Esprit, nous savons aussi que cette même marque du Saint-Esprit, en Actes chapitre 1 verset 8, il nous dit qu'elle nous a été donnée pour que nous soyons des témoins. Donc on a vraiment cette image de ce sceau. À la fois nous avons été scellés, marqués, mais cette même marque doit être également communicable. Nous sommes là, nous avons reçu une marque afin que nous puissions également marquer, influencer les gens qui nous entourent et le monde dans lequel nous sommes. L'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Il y a cette association de l'amour et de la mort. On n'aime pas ça, le monde aurait tendance à l'opposer. Pourtant, c'est Jésus qui dit en Jean chapitre 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, chapitre 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et celui qui a dit cela, il l'a vécu dans sa propre chair. En Romains chapitre 5, verset 8, il nous est dit que Dieu prouve. C'est incroyable ce mot-là. Dieu prouve. Est-ce que Dieu a quelque chose à prouver aux hommes ? Eh bien, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a donné son fils Christ, et Christ est mort pour nous. C'est incroyable. Dieu prouve son amour envers nous par le fait que son propre fils soit mort pour nous. Oui, la meilleure preuve d'amour, c'est de mourir. Alors, s'il vous plaît, ne vous suicidez pas ce soir. Quoique, nous les hommes, les maris, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et c'est ce qui nous est demandé en Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on doit se tuer à la tâche? J'ai presque envie de dire oui. Nous sommes appelés non pas à mourir physiquement, mais à renoncer à nous-mêmes. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes pour répondre aux besoins affectifs de notre épouse. Nous sommes appelés, oui, à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nos conceptions, à renoncer à nos logiques, qui sont évidemment différentes de celles de nos épouses. Mais c'est à nous de renoncer, c'est à nous de mourir, c'est à nous d'accepter le dialogue, c'est à nous de sortir de nos silences, c'est à nous de renoncer à nos occupations pour passer plus de temps avec elles, c'est à nous de renoncer à la télé, à nos loisirs, pour les assister dans les tâches au quotidien. C'est à nous de mourir à nous-mêmes. Trop souvent, nous avons, nous les hommes, une attitude de retrait. On est dans notre coin et on voudrait être servi. Mais Christ nous donne un tout autre exemple. C'est à nous justement de mourir à nous-mêmes afin d'être au service de nos épouses. Et oui, quelque part, tuons-nous à la tâche, mais à la bonne tâche, celle de la valorisation de nos épouses. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et la meilleure preuve que nous aurons à donner à nos épouses, c'est d'être capable de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes. Et là, nous n'aurons plus rien à prouver, car tout se fera de lui-même. Et si besoin, relisez les conseils qui sont donnés au chapitre 7, entre les versets 12 et 14, où nous avions vu tous ces conseils pour réveiller les désirs amoureux. Verset 7, ce témoignage des filles du harem qui dit que rien ne peut éteindre l'amour. Si seulement c'était vrai. On voit des amours qui s'étouffent. Mais on a quand même vu que la Sulamite avait fait l'effort. Elle avait un combat. On a vu son attitude à toujours veiller sur ses sentiments. Et j'ai envie de m'appuyer sur ce verset pour nous dire que c'est notre devoir de ne pas éteindre l'amour qui est dans notre cœur. L'amour affectif, mais l'amour également spirituel. Réveille-toi, toi qui dors. C'est à nous. C'est à nous. Paul, quand il parle à Timothée, il dit « Ranime !» Le don que tu as reçu, c'est à nous. C'est à nous de veiller sur notre cœur. Plus que toute autre chose, dit le Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est à nous de veiller à ce que les grandes eaux ne viennent pas étouffer notre amour. Et pourtant, les grandes eaux, elles vont venir. D'ailleurs, Jésus le dit dans cette parabole, en parlant de deux tours que les gens ont construites, l'un sur le sable, l'autre sur un roc. Il dit, mais les eaux sont venues, les vents ont soufflé, il y a eu la tempête. Bien sûr que dans notre vie, ça va secouer. Mais bien sûr que le diable va tout faire pour déstabiliser notre amour, qu'il soit affectif ou spirituel, c'est la même chose. Et la grande leçon, c'est que l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, mais l'amour, c'est un engagement. Et cet engagement nécessite de notre part à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Parce que si nous perdons le terrain de l'amour, nous perdons tout. Nous perdons tout. si nous perdons l'engagement de l'amour à l'égard de nos époux, de notre épouse, nous perdons ce qui nous lie à elle. Et si nous perdons pareillement un rapport affectif amoureux à Jésus-Christ, il n'est pas sur le même rapport, évidemment, c'est un amour spirituel, cette affection spirituelle. Mais si nous perdons cette relation affective avec Dieu, mais nous perdons tout. Nous perdons tout. L'amour, c'est l'élément essentiel. Tout dépend de l'amour. Si nous perdons l'amour, nous perdons l'essentiel. Alors veillons, oui, que Dieu nous fasse grâce. Mais c'est à nous également de veiller à protéger l'amour des grandes eaux, afin qu'effectivement l'amour triomphe toujours dans notre vie. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. Ce sera notre dernière pensée. Mais n'oublions pas qu'effectivement le monde cherchera toujours à nous garder à sa cause en nous flattant. En nous flattant dans notre chair. En nous proposant les soi-disant trésors de ce monde. En nous sclérosant dans quelques conforts mondains, intérêts charnels. Les stratégies du malin ont toujours été les mêmes. Flatter la chair afin de nous éloigner des choses essentielles. Argent, richesse, femme, homme, gloire, succès, honneur, reconnaissance. J'ai mis 3 petits points et mettez la liste que vous voulez. Le monde sera toujours là par ses raisonnements. Mais que nous soyons toujours clairvoyants quand un homme offrirait tous les biens. Le monde est capable de nous faire plein de promesses, vous savez, bien sûr. Même en politique, on dit que les promesses ne valent que pour ceux qui y croient. Mais le diable fait pareil. Il va vous dire, t'inquiète, t'as pas besoin de l'évangile, t'inquiète, t'as pas besoin de ça. Tu vas voir. Il va vous faire des promesses. Vous savez, toutes les femmes du harem ont eu aussi leur lot de promesses. Et en finalité, elles n'étaient que là pour la guise du roi une fois de temps en temps. Mais elles ont toutes cru que ça allait être bien. Et vanité des vanités. Le monde fait des promesses, mais ça ne remplit absolument pas le cœur. Le monde va vous faire des promesses. Ah, lâche, laisse tomber, repose-toi, c'est mieux, truc comme ça. Ça sert à rien d'aller à la réunion, ça sert à rien de prier, ça sert à rien de lire la Bible, ça sert à rien, t'inquiète. Tout ira bien. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus, comparativement, ne nous promet rien de glorieux. Mais il nous a prévenu, mon royaume n'est pas de ce monde. Par contre, il nous a fait une promesse. Non pas des richesses, non pas de la gloire, mais la promesse qu'il nous a faite, c'est celle de sa présence. Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, cette promesse-là, non seulement le Seigneur l'a dit, mais il l'accomplit. Amen. Elle est vérifiable. Et il vaut mieux avoir la présence de Dieu avec nous dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, difficiles ou plus faciles. Mais au moins, si le Seigneur est avec nous, on sait qu'on peut aller de l'avant. Amen. Les richesses du monde, vous savez, les gloires de ce monde, ça ne vaut pas grand-chose. Il suffit d'écouter ceux qui ont toutes ces choses-là pour les entendre, s'apercevoir qu'elles sont elles-mêmes perdues. Mais par contre, la présence de Dieu, ça, c'est ce dont on a besoin. À tout niveau, il est notre pourvoyeur, il nous donne sécurité, il est notre grâce. D'ailleurs, peut-être que c'est un élément de réponse. Quelques-uns se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas toujours nos prières ? Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas toujours nos prières ? On pourrait légitimement se poser la question. Mais je crois que c'est pour une de ces raisons-là. Pour que notre espérance à nous ne soit pas seulement fixée sur des objectifs terrestres, mais que notre espérance soit fixée sur des objectifs spirituels. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et si Dieu est vraiment exaucé chacune de nos prières, je me demande si notre cœur ne s'attacherait pas plus un peu plus à la terre qu'aujourd'hui. Et je crois que Dieu est sage quand il n'exauce pas toujours nos prières et qu'il nous invite aussi à nous détacher un peu plus des choses de cette terre pour réaliser que notre trésor, il n'est pas ici, mais il est au ciel. Amen. Et je crois qu'il y a véritablement de la sagesse de Dieu dans ce domaine-là. Le Seigneur nous a promis une chose, c'est d'être scellés du Saint-Esprit. Amen. Il nous a promis par le Saint-Esprit d'être avec nous tous les jours. Il nous a promis. Et cette promesse-là, non seulement il l'accomplit, on peut la vivre et elle sera notre force dans toutes les circonstances et jusqu'au dernier souffle de notre vie. Amen. Et Dieu est fidèle pour cela. Alléluia.